Alors, je vais commencer bizarrement, et puis je vais en fait te rapprocher de textes. Voilà. Et le reste, vous le découvrirez au fur et à mesure. Commençons bizarrement par en évoquant cet endroit qu'on appelle communément le lieu où le roi va seul. Et en fait, chacun d'entre nous, nous y allons seuls, et nous y allons tous, du plus grand au plus petit. Même le roi. Et pendant ce culte, ce moment si spirituel, si je peux employer ce langage, avec les conditions sanitaires, vous le savez, l'une de nous a la tâche de faire pivoter une pancarte. Je parle des toilettes pour ceux qui n'avaient pas compris. Pourquoi j'en parle? En fait, il se trouve que la Bible nous raconte un de ces moments, c'est rare, où un roi y va, et il va seul, et ça se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 24. Et si vous avez une traduction ancienne maintenant, Second ou Darby, enfin les anciennes versions Second et Darby, on lit dans le texte, on va le lire ensuite, mais j'aurai une autre version, on lit qu'il allait s'y couvrir les pieds, ce qui est un euphémisme, donc voilà, c'est une façon de dire d'une autre façon ce qu'on n'ose pas dire crûment. Et à l'époque, il faut simplement comprendre que les hommes étaient vêtus d'espèces de robes. Et donc, quand on s'accroupit, eh bien, on se couvre les pieds. Voilà, c'est pour ça qu'on le dit comme ça en hébreu. Nous sommes au Xe siècle avant Jésus-Christ. Le roi, c'est Saül. C'est le premier roi d'Israël. Et il poursuit, en fait, son ancien général, David. David dont il veut la mort. Et je vais lire le début, donc, de 1 Samuel au chapitre 24. David est en fuite. David repartit de là pour s'installer dans les falaises escarpées d'En-Gedi. Lorsque Saül revint de sa campagne contre les Philistins, on l'informa que David se trouvait maintenant dans le désert d'En-Gedi. Alors le roi rassembla 3 milliers d'hommes d'élite, choisis dans tout Israël, et il se mit à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face du rocher des Bouquetins. En passant près des parcs à moutons, en bordure du chemin, il vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin naturel, pour couvrir ses pieds. Or, David et ses compagnons se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent « Voici le moment annoncé par l'Éternel, lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon lui semble. » Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de poser la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction. » Car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Alors, ce n'est pas vraiment un récit passe-partout. Et en même temps, de mon point de vue, en tout cas, je vois ce récit comme assez spectaculaire. J'y viendrai tout à l'heure. Nous rencontrons avec Saül, pour ceux qui sont familiers du texte, mais voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, un personnage qui est tourmenté, qui est très attachant par certains côtés, de mon point de vue encore, et il est terrifiant par d'autres. C'est lui qui est capable de prendre une lance tout d'un coup et de la jeter sur quelqu'un. En sa présence, ça ne doit pas être très confortable. Et David a été très proche de lui, donc c'était son général. C'est toujours d'ailleurs le plus grand ami de son fils, donc on voit des liens de proximité, et en plus c'est son gendre. Mais Saül s'est mis, d'une manière apparemment irrationnelle, comme ça nous arrive aussi parfois, de manière apparemment irrationnelle, à le haïr. Il s'est mis à le jalouser. Tout à coup, il se passe quelque chose et on aimerait, j'aimerais que ça soit pour moi et pas pour lui. Puis on se met à haïr celui qui a eu ce privilège-là, sans même conscience d'avoir eu un privilège, peut-être. Et au point de vouloir le détruire, c'est pas simplement une vague jalousie intérieure, c'est qu'il a les moyens d'aller jusqu'au bout de sa jalousie. Par tous les moyens, il s'acharne, et c'est lui-même qui va à sa poursuite. Il n'envoie pas des hommes le chercher, il y va avec eux. Et David est dans une situation très, 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 très fragile. Il est en fuite, on le cherche et on le dénonce. C'est ce qu'on a lu au début du texte. David repartit, il alla à En-Gedi, on informa Saül que David se trouvait maintenant dans le désert d'En-Gedi. Et nous voilà donc à l'endroit où le roi va seul. Le voici dans une position de vulnérabilité évidemment extrême. Pas fier, pas glorieux sans doute, pas à son avantage. Souvenez-vous ce que ça vous fait quand vous êtes aux toilettes et que tout d'un coup la porte s'ouvre parce que vous avez oublié de fermer. Pas très disponible pour se défendre en cas d'attaque. Ironie du hasard. Je mets des guillemets peut-être. Le voici exposé à son insu, à celui qu'il veut détruire à tout prix. Le voici à sa merci. Voici pour Saül. Alors on comprend la réaction des compagnons de David. C'est une situation tellement inattendue, un tel concours de circonstances. Mais ça ne peut être que Dieu. Ça ne peut être que Dieu qui a agencé ça. C'est le hasard, disais-je tout à l'heure, avec un grand D. Mettez-vous à leur place. Celui qui vous en veut le plus, et gratuitement, sans vraie raison, sans raison légitime, comme c'est le cas quand la jalousie nous rejoint. Oh, je suis amoureux de telle personne, mais il est amoureux d'une autre et ça ne me va pas. Je suis trop jaloux. Donc, celui qui nous en veut gratuitement, et la jalousie nous l'a pris tant que qu'elle l'habite, qu'elle le consume, celui qui s'efforce par tous les moyens de vous détruire, de vous tuer, en l'occurrence, qui a les moyens de vous faire assez de tort pour faire de vous un homme traqué, parce que c'est ce qui arrive à David, sans feu ni lieu, un itinérant, un SDF, celui qui, s'il vous voyait là devant lui, à sa merci, à sa portée, n'hésiterait pas à vous couper la tête ou à vous embrocher d'une façon ou d'une autre, celui-là est là, il est isolé du reste de l'armée, il est à portée de votre main, et il est en plus inconscient de votre présence. Et si on sait en plus, c'est bien ce que les compagnons de David savent, que Dieu a choisi David, donc le roi en titre est toujours roi, mais Dieu a choisi David pour être le roi après lui. Que Dieu veut faire de David, votre compagnon qui est là, le roi, et que le seul obstacle qui se trouve entre lui et le trône, c'est cette personne qui est accroupie à quelques pas de vous, on va dire, mais si c'est pas Dieu qui a agencé la situation, qui est-ce qui a fait ça ? Tu serais bien bête. Tu serais bien bête de ne pas en profiter. Comment est-ce que vous décodez, comment est-ce que nous décodons les situations que nous connaissons, nous ? Surtout quand elles semblent s'agencer en notre faveur, quand toutes les portes s'ouvrent, comme on dit communément, quand toutes les circonstances concordent. Pour les fugitifs qui entourent David, mais Dieu a mis les choses en place, il te sert sur un plateau, là. Tout concorde. Tu n'as qu'à agir. Il n'y a plus qu'à. Tes amis te le disent. Probablement, il y a une voix à l'intérieur de toi qui te le dit aussi. Qu'est-ce que vous feriez à sa place ? Qu'est-ce que vous faites dans les situations qui sont les vôtres ? Parce qu'on ne peut pas être à la place de David, mais on est à la nôtre. On peut retenir son souffle. David l'a sans doute fait lui aussi. David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Imaginez-vous à sa place. Puis on pourrait dire, tant qu'à laisser à Saül la vie sauve, si c'est ça, mais pourquoi il ne reste pas planqué, quoi, au bout du compte ? Dans cette situation, il va découper un pan du manteau de Saül sans que Saül s'en rende compte. Ça me fait penser, toute proportion gardée, mais quand même, à la limite, à Mission Impossible, hein, je ne sais pas quel épisode, avec le héros qui est suspendu à un câble à l'intérieur d'un dispositif, d'une pièce technologiquement perfectionnée, dispositif électronique ultra puissant, au point que même une goutte de sa sueur pourrait le trahir. Et on pourrait dire, ça, c'est spectaculaire. Si on est très blockbuster, etc. Mais c'est pas cette habileté qui m'amènerait, pour ma part, à qualifier le récit de spectaculaire. C'est évidemment ce choix de David de résister. Résister d'abord peut-être à sa voix intérieure, s'il en a une, le texte n'en parle pas. Ensuite à la voix de ses compagnons, à la voix de l'évidence. Il y a tellement peu de chances pour que ça se produise, un truc comme ça. Tout semble corroborer l'hypothèse que Dieu sert la situation sur un plateau. Eh bien moi, en tout cas, je ne touche pas à celui sur qui Dieu a conféré l'onction. Si vous êtes familier de la suite de l'histoire, vous savez que non seulement ça, mais deux chapitres plus loin, c'est au chapitre 26, on se retrouvera dans une situation voisine, puisque David aura encore la possibilité de tuer Saül ou de le faire tuer, et il va s'interposer à nouveau au nom de la même conviction qui sera répétée, que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Donc autant dire que l'auteur biblique insiste sur cette conviction de David. Et cette conviction de David, elle m'interroge. Et pour ce qui me concerne, parce que je ne peux parler que de moi, je vous confesse que je ne sais pas très bien quel regard avoir sur cette conviction de David. C'est David qui dit ça. Donc on entend ce qui est sa conviction. Est-ce que sa conviction est juste? Est-ce qu'il a raison de faire ça? Est-ce qu'il a tort de faire ça? Ça, c'est une autre question. Je suis de mon côté dans l'hésitation parce que d'un côté, cette conviction, elle s'apparente à ce qu'on trouve, par exemple, dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Romains, au chapitre 13. L'apôtre dit que de se soumettre aux autorités, parce que toute autorité qui est présente a été instituée par Dieu. D'accord. Donc ça, j'ai pas de souci avec Romains. Enfin, j'ai pas de souci. C'est une autre question. Mais est-ce que c'est une invitation qui vaut toujours et partout, dans toutes les situations partout? Ou bien est-ce que ça nous est donné comme une règle générale, ça c'est le minimum syndical, si je peux employer ce langage? Est-ce que ça nous est donné comme une règle générale, mais une règle qui pourrait souffrir des exceptions? David dit que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Si on est tenté de penser que qu'en tout temps, en tout lieu, dans toutes les situations, alors on va se retenir d'agir. Ceux qui répondront positivement diront que dans la lettre aux Romains, la lettre est adressée aux croyants de Rome, et c'est à l'époque du règne de Néron, Néron qui n'est pas connu comme un tendre, qui a persécuté entre autres les chrétiens, qui zigouillait les gens de sa famille régulièrement. Je crois que c'est de lui qu'on disait qu'il valait mieux être son cochon que quelqu'un de la famille, parce que le cochon avait des chances d'en sortir, mais la personne de la famille, c'était moins gagné. Bon, voilà. En tout cas, à plusieurs moments de l'histoire humaine, certains chrétiens ont fait le choix de s'impliquer pour lutter contre des tyrans. C'est le cas du théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, qui a choisi de participer à un complot pour tuer Hitler. C'était Hitler dont on parle. Donc ça peut être Hitler. Qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme ça? Et puis, ce texte m'a frappé, en fait, parce qu'il remonte au tout début de mon histoire de foi, parce que je l'ai trouvé dans le bouquin de... Comment il s'appelle? Le fondateur des hommes d'affaires du plein évangile. Donc, le bouquin, c'est « Les gens les plus heureux sur Terre ». Chacarien, voilà. Parce qu'il est cité à un moment donné dans le bouquin, au moment où un évangéliste, un pasteur, peu importe, se barre avec l'argent, finalement. Donc, que faire quand des responsables chrétiens profitent au nom de leur prétendue onction, parce que là aussi il y aurait des points à discuter, mais bon, profitent au nom de leur onction prétendue, que faire quand ils profitent de la vulnérabilité ou de la naïveté de ceux qu'ils accompagnent, quand ils se servent dans la caisse, ou bien quand ils entraînent ceux qu'ils accompagnent dans leur intimité sexuelle? Que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction? On laisse les personnes faire des choses de cet ordre? Donc, voilà, voilà les questions qui m'habitent. Ce que je nous invite à garder en tête, en tout cas, c'est que c'est la conviction de David. Et du coup, ce qu'il choisit de faire reste spectaculaire. La suite du texte montre que ça va bouleverser même Saül, parce que je me suis arrêté, mais en fait, David, juste après, sort de la caverne et arrive avec le bout de tissu à la main. Et quand Saül prend conscience de ce qui vient de se passer, Saül est bouleversé. Et il dit, tu es plus juste que moi, tu m'as traité avec bonté, alors que moi, je t'ai fait du mal. Et on lit que Saül est bouleversé et il pleure. Les hommes pleuraient aussi à l'époque. Mais là, il pleure de honte, sans doute. Enfin, il pleure, mais il pleure un petit moment, au moins parce qu'après le chapitre 24, la poursuite va recommencer. C'est tout l'ambiguïté de Saül, mais de plusieurs d'entre nous aussi. Nous excusons à un moment donné, et puis parfois on recommence exactement pareil. Donc. Et on se dira d'autant plus, mais est-ce que David n'a pas raté l'occasion? Il l'avait à portée de main, et puis ouais, il aurait pu... Et puis là, ça semble se renouer, et puis ça repart. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, David? Et plusieurs lui ont peut-être dit, lui ont reproché. Peut-être lui-même s'est dit, mais j'ai raté l'occasion que Dieu m'a donnée. Peut-être que plusieurs de ses compagnons ont dit, mais on va prier pour qu'il y en ait une autre, parce que là, ça devient, on va pas s'en sortir, sinon, et pour que David, la prochaine fois, en tire les leçons, et qu'il y ait une autre occasion, et que la prochaine fois, David ne la rate pas. Sauf qu'il y en a une, et que David agit de la même façon. Que faisons-nous, nous, quand nous avons du pouvoir sur les autres? Et en particulier pour ceux qui ne nous aiment pas bien. Qu'est-ce que nous faisons quand tout donne à penser que les choses tournent à notre avantage? Quand Dieu a fait en sorte que, c'est en tout cas ce que nous nous disons, quand nous avons ceux qui nous haïssent, quand nous avons ceux que nous haïssons, à notre portée, à notre merci. Ceux qui nous ont fait du tort, ceux qui nous font du tort, ceux qui font des choses maintenant qui ne nous plaisent pas, qui nous menacent. Qu'est-ce que nous faisons quand, sans effort, nous sommes en mesure de leur faire sentir au minimum un peu de leur injustice quand même, un peu de leur méchanceté, ou au minimum quand même de leur faire la leçon? Qu'est-ce que nous faisons? J'avais annoncé deux passages bibliques, j'en viens au second. Un autre épisode biblique me vient en pensée, et il a lieu bien des années plus tard. Et comme ici, c'est la vie d'un homme qui est en jeu. Là, c'est pas un futur roi qui pourrait prendre la place d'un roi présent, mais c'est aussi un roi. Et c'est aussi un roi vulnérable. Et là aussi, toutes les circonstances sont réunies pour que ça puisse se passer discrètement. C'est la nuit, il est dans un jardin à l'extérieur de la ville, il y a peu de gens avec lui. Là aussi, on a affaire à une trahison. C'est un des plus proches de son cercle intime là qui vient de le trahir. C'est pas quelqu'un qui a vu passer la troupe, là, c'est quelqu'un qui fait partie du cercle. Et c'est lui-même qui mène la troupe qui vient l'arrêter. Et a priori, on pourrait se dire, mais là l'effet de surprise peut être total. Lisons dans l'évangile de Matthieu, Au moment donc où on est dans cette idée d'effet de surprise potentiel, Jésus dit, avant qu'il ne soit là, l'heure est venue, où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. Jésus n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des douze, survint, accompagné d'une troupe nombreuse, armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. » Il se dirigea donc tout droit vers Jésus et lui dit « Bonsoir maître !» Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina, en frappa le serviteur des grands prêtres et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, « Remets ton épée en place. » Car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrai pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles? Alors évidemment, il y a des différences entre les récits, je ne vais pas les lister, on ne peut pas parler de récits parallèles, il n'y a pas deux rois par exemple face à face. Mais ce qui me frappe dans ces deux récits, ce qui m'amène à les rapprocher ce matin, c'est cette retenue qui se donne à voir de la part, dans un cas comme dans l'autre, de celui que j'appellerais le juste. Persécuté, de la part de David, comme de la part de celui que le Nouveau Testament appelle, présente comme le nouveau David. Je ne vais pas le développer là maintenant, si ça ne vous est pas familier, mais je crois que c'est bien comme ça que le Nouveau Testament le présente. David était armé, ses compagnons aussi, et on voit très bien dans la situation, ses compagnons en tout cas le voient très bien, ce qu'ils étaient en mesure de faire. La façon dont ils pouvaient profiter de l'occasion, c'était transparent. Dans le chapitre 26, qui est le passage parallèle, il y a un d'entre eux qui dit « Permets-moi de le clouer. » Là, ils sont en train de dormir. Ils sont entrés dans le camp, tout le monde dort, donc le roi dort. Et puis il dit « Permets-moi de le clouer au sol d'un seul coup de lance, je n'aurai pas à y revenir à deux fois. » Donc il est confiant de son efficacité. Et dans l'évangile, par contre, Jésus lui paraît complètement démuni. Il n'est pas armé en tout cas. Et un des compagnons de Jésus se passe de sa permission. Là, il agit. Avec David, le spectaculaire se donne à voir parce qu'il est patent. Il est évident qu'il a l'occasion et qu'il a les moyens de tuer. C'est évident pour tous. Et il ne le fait pas. Et c'est devant témoins. Donc je dis, avec David, c'était perceptible, c'est épatant, on voit tout de suite ce qu'il est en mesure de faire ou de ne pas faire. Et c'est pour ça que c'est spectaculaire. Mais avec le nouveau David, une partie seulement est perceptible. Le fait que Jésus s'interpose. Et un autre récit du même épisode nous dira en plus qu'il guérit le blessé. Mais la plus grosse partie du spectaculaire dans l'évangile de Matthieu me semble être celle qui ne se donne pas à voir. La seule chose que nous pouvons faire, je crois, c'est de l'entendre, à condition de tendre l'oreille. Nous l'entendons alors que rien ne se donne à voir quand il dit au début du texte « L'heure est venue. » Ils arrivent. Ils ne sont pas là encore. Et quand ils sont là alors que rien n'est visible, il dit encore, « Penses-tu donc que je ne pourrai pas faire appel à mon Père. À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Et ça m'a fait penser à ce qu'a fait un seul ange dans un texte d'Ancien Testament, dans le passé. Il y avait une armée autour de Jérusalem, donc la ville était assiégée par les Assyriens, c'est dans 2 Rois 19. Et les Assyriens, en plus, y allaient fort, quoi, parce qu'ils étaient venus la veille se vanter en disant « Allez les gars, vous êtes complètement démunis là. Laissez tomber, laissez-nous entrer. Ben, sinon, on vous éclate, quoi. Vous êtes nuls. » On lit dans le texte qu'un ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes pendant la nuit. Un ange, 185 000 hommes. Il est plus soudain, il est plus efficace, si je peux employer ce langage, que le coronavirus. Vous vous souvenez aussi sans doute, si vous avez le texte en tête, qu'il suffit d'un seul ange en Égypte pour que le peuple fuit. Un seul ange. Le pays a été dévasté. Alors imaginez Jésus qui nous dit là qu'il pourrait en convoquer quelques dizaines de milliers. David avait son épée, ses hommes, il n'en a pas fait usage, et ça se voit. Le nouveau David, il a bien plus à sa disposition. Il n'en fait pas usage, et ça ne se voit pas. Mais quand on le touche du doigt, je reprends conscience en lisant ce texte, que c'est souvent pas ce qui est le plus spectaculaire qui nous montre à qui nous avons affaire. Mais ce dont, parfois ce qui est extrêmement spectaculaire, c'est ce dont nous n'avons pas conscience et qui n'est pas visible. Je fais une parenthèse, je ne l'ai pas prévu, mais j'étais déjà raconté cette histoire, mais elle m'a touché, je la redis aussi, ça n'a rien de chrétien. C'est un philosophe, je crois, qui se promenait dans la campagne, et qui à un moment donné est intrigué par une pierre dans les herbes, et qui va soulever la pierre. Et tout à coup, il y a un oiseau qui s'envole, il suit du regard, c'est, je sais pas, un petit oiseau, et il le suit du regard, et il voit qu'il y a un rapace qui l'attrape et qui tue l'oiseau. Bon, donc un geste, là. Et donc, voilà, et puis il se rend compte aussi que derrière la pierre, il y avait des petits qui étaient là. Donc la mère fuit pour détourner l'attention. En fuyant, elle se fait tuer. Les petits sont là. Donc déjà, ça donne une impression de vertige. Mais ce qui a touché cet homme, c'était de dire « Et si j'avais pas fait ça, je ne l'aurais jamais su. » Il serait passé devant la pierre, il continuait. Il n'aurait pas mesuré qu'il avait là le pouvoir de vie ou de mort, qu'un petit geste pouvait... Tout ce qu'il y avait derrière, qui était là, qui était présent, mais qu'il ne voyait pas. Ce n'est pas souvent ce qui est le plus... forcément ce qui est le plus spectaculaire qui nous montre à qui nous avons affaire. C'est parfois ce qui n'est pas visible, ce dont nous n'avons pas conscience. Et j'ai envie de le rapprocher tout simplement de situations très très simples, de celles que nous pouvons connaître tous les uns et les autres. Il y a, je crois qu'on le fait tous sans doute à un moment donné au moins, mais il y a des personnes par exemple qui se donnent, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur argent, qui donnent de leur énergie. À notre époque et à l'époque de Jésus aussi, ça peut être cette vieille femme que l'on voit ouvrir son porte-monnaie et puis mettre quelques euros, quelques petites centimes d'euros dans la boîte de l'offrande. Ça peut être une personne qui ne rebondit pas quand on l'insulte, qui se laisse insulter. Ça peut être nous tous à un moment donné, sans doute, quand nous nous donnons discrètement pour une cause et quand parfois ça nous coûte de le faire, mais que nous le faisons quand même. Vu de l'extérieur, pour l'entourage sans doute, ce qu'elles font, c'est un geste banal, voire même un geste sans importance, voire même pire, on t'insulte et tu réponds pas. Mais t'es un faible, quoi. Comment on appelle ça? T'es un raté, là. A loser. Ou bien l'entourage ne le voit pas parce que peut-être lui, faire le même geste, ça lui apparaît tellement facile mettre quelques centimes d'euros dans la boîte de l'offrande, c'est facile. Mais nous ne mesurons pas ce que coûte à l'autre le geste qu'il fait. Jésus voit ici ce qui ne se voit pas. Ici, il voit ses adversaires venir le tuer. Avant, il avait vu que tous les autres ont donné de leur superflu, alors qu'elle, elle a donné de tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et c'est au moment où on mesure la, où on prend la mesure de ce que ça a coûté à quelqu'un, qu'on prend la mesure de la grandeur de la personne, quand on mesure le prix qu'elle a payé. Ici, nous lisons, tous les disciples l'abandonnèrent. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Le roi des rois ira seul à Golgotha. Seul, entre guillemets, mais seul, oui, accompagné de ses bourreaux, abandonné de ses disciples, ressentant même l'abandon de la part de Dieu, sans faire appel à un seul ange pour retourner la situation à son avantage. Mes frères, mes sœurs, dans cet épisode confidentiel, derrière cette apparence de faiblesse, une mort misérable sur la croix, parmi d'autres, malfrats, voyons donc la façon dont Dieu nous aime, la façon dont Dieu accomplit la plus grande œuvre qu'il soit, et qu'il le fait pour nous. Que Dieu nous inspire, que Dieu vous inspire pour vivre dans le même mouvement, dans le même sens. Je vous invite à faire un moment de prendre un moment de silence, de recueillement.